Bonjour à tous. Nous étions dimanche dernier dans, à quelques-uns avec Nicole, Corinne, Francine, moi-même, à l'inauguration de l'église de Paris. Et nous avons eu le plaisir, la joie de voir un petit peu ce moment d'inauguration pendant 3 jours comme un temps de fête. Après bien des mois, voire des années de prière pour eux comme pour nous, il faut savoir que un couple avait donné une certaine somme d'argent pour l'achat d'une salle à Paris il y a plus de 40 ans. 40 ans. Ouh. Ah, il faut attendre parfois pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Alors, nous étions... à participer à ce temps. Et puis, je les ai questionnés sur leur motivation. Et je les ai questionnés sur la folie, en fait, qu'ils faisaient. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Comment, à notre époque, peut-il être censé d'ouvrir une église. Après 2 ans et demi, ils sont entrés dans ce qu'ils croyaient être juste. C'est l'apôtre Paul qui dit « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » C'est une folie. Nous avons eu le plaisir de voir le deuxième jour à l'inauguration officielle, et un député qui est venu, le député du 18e arrondissement. Et ce député, j'ai pu parler un peu avec lui, et il me disait combien pour lui c'était important qu'il y ait une église qui puisse s'ouvrir sur son arrondissement et qui soit un espace ouvert d'accueil, de respect, de main tendue pour l'autre. Et je me disais, waouh. Lui non plus n'a pas réalisé la folie d'ouvrir une église dans son arrondissement. Et puis j'ai envie de dire, vous aussi ce matin, vous n'êtes pas un peu fou de vous être levé, préparé, d'être venu dans ce lieu, alors que sur la chaîne 1, il y a téléfoot. Que vous auriez pu rester sous la couette bien au chaud après une semaine de travail. Je suis sûr que... voilà, il y a eu un effort à faire pour se lever. Que vous auriez pu profiter de votre famille, de vos proches. Est-ce que ce n'est pas un peu fou? N'est-ce pas une folie de venir à l'église chaque dimanche pour certains d'entre nous, hein, tous les dimanches depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour les plus anciens? En quoi l'église, et c'est ce qui m'interpellait dimanche dernier, en allant à Paris, en quoi l'Église a-t-elle encore un sens aujourd'hui pour le monde dans lequel nous vivons? Ah, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il faut être un peu fou. Mais en fait, cette folie qui habite l'Église, qui habite ceux qui... son disciple de Jésus-Christ, c'est une folie qui est en fait l'accomplissement de la sagesse de Dieu. Si la parole nous exposait les principes élémentaires qui règlent l'ordre de ce monde, et que cette folie aux yeux du monde était en définitive la volonté d'un Dieu qui agit, qui veut se faire rencontrer, qui veut rencontrer ses enfants, qui poursuit ses desseins à Paris comme à Kévin et tout autour de la terre. Et si le sens de cet endroit où nous nous tenons, de cette démarche qui est entreprise par vous, qui êtes ici, répondait à un plan de salut de Dieu pour nos vies, mais aussi pour cet espace, cette Bretagne dans laquelle nous nous inscrivons. En fait, si nous lisons l'Écriture, nous pouvons trouver des représentations visibles de ce qu'est le plan de salut de Dieu. Et j'aimerais ce matin vous proposer de découvrir une de ces images que Dieu a utilisées, pas seulement une image, quelque chose qui a fonctionné pendant des siècles dans la terre d'Israël et qui représente l'œuvre de la rédemption, qui annonce le Rédempteur et qui dit ce qu'est l'Église et ce qu'est Christ aujourd'hui pour notre monde. Alors, j'aimerais vous proposer ce matin de découvrir Christ annoncé dans l'Ancien Testament, mais l'Église aussi annoncée comme le peuple de Dieu, comme un lieu de refuge et de sécurité. Est-ce que Christ est pour nous un lieu de refuge et de sécurité ? Est-ce que l'Église, je ne parle pas des murs, de l'endroit, mais l'Église avec un grand E est un lieu de refuge et de sécurité. Et en fait, dans l'Ancien Testament, on lit ceci au chapitre 35. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit « Ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. » Vous donnerez aussi aux Lévites les abords de ces villes, ils auront les villes pour y habiter. 46 villes ont été accordées aux Lévites. La terre d'Israël était aux autres tribus, mais la tribu de Lévite n'avait pas de territoire, mais des villes qui leur étaient accordées. Et un peu plus loin, toujours au chapitre 35, verset 9, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous déterminerez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. » Waouh ! C'est quoi cette histoire ? « Afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites. » Est-ce que Christ est notre refuge ? Lorsque Dieu donne cet ordre de désigner des villes de refuge et de les installer sur le territoire d'Israël, en fait, il crée un espace de salut et de sécurité qui est destiné à ceux qui seraient involontairement coupables d'avoir porté atteinte à la vie de quelqu'un. 6 villes de refuge. Il n'y avait pas de portion prévue dans le partage de la Terre Sainte pour les Lévites. Juste ces villes, 46 villes, et parmi elles, 48 villes, et parmi elles, 6 villes de refuge. En fait, ces villes de refuge dont il est question, ce sont des villes qui, concrètement, sont des lieux de sécurité et de sauvetage. Et on ne peut pas prendre conscience de ce système qui est posé par Dieu en Israël sans penser à l'œuvre de Christ et à la personne de Christ. En fait, ces villes de refuge dont il est question, c'est une préfiguration, non seulement de Christ au milieu du monde, mais aussi de l'Église en tant que corps de Christ. Alors, est-ce que cet espace est un lieu de refuge ? Vous savez qu'au Moyen-Âge, si on se réfugiait dans une église, on ne pouvait pas être atteint parce qu'on était dans une terre sainte. Mais dans l'Ancien Testament, si un meurtrier ou un coupable rentrait dans le temple, voire dans le tabernacle, et s'accrochait aux cornes de l'autel, l'autel avait des cornes, eh bien, il ne pouvait pas être touché. Il y avait un véritable espace de salut. Quand quelqu'un était coupable de meurtre, il y avait ce qu'on appelle un vengeur de sang. Alors, c'est quoi un vengeur de sang ? C'était un des plus proches parents de celui qui avait été victime de mort. Et le plus proche parent avait le droit de poursuivre le responsable et de le tuer. Œil pour œil, dent pour dent. Il pouvait le poursuivre et le tuer, sauf s'il se réfugiait dans une ville de refuge. Et le vengeur de sang, en hébreu, ça se dit Goël. Wow. Quand on n'est pas habitué de l'hébreu, ça ne nous dit pas grand-chose, sauf que le Goël, dans la loi lévitique, c'est le rédempteur, celui qui rachète le sang versé, la culpabilité, le péché. Le Goël, en français, via le latin, c'est devenu le rédempteur, celui qui fait payer. Le rédempteur, ça vous dit quelque chose ? Celui qui paye la faute, qui fait payer la faute. Très concrètement, en Israël, ce n'était pas un système spirituel, c'était quelque chose de juridiquement installé. Je vais demander à Patricia de nous montrer la carte d'Israël avec les villes de refuge. Ces villes de refuge, elles étaient 6. Ces villes de refuge, si on trouve le PowerPoint, ces villes de refuge, en fait, elles étaient des caractéristiques aussi de ce que Christ est aujourd'hui. Ces 6 villes de refuge, elles avaient d'abord cet objectif, c'est de répondre aux besoins de sécurité. On peut mettre peut-être en grand, si tu arrives. Hein? Voilà. Oh. Voilà, très bien. On va faire comme ça. 6 villes de refuge. La question, c'est, est-ce qu'il y a besoin de villes de refuge en Israël ? Ben oui, si on était coupable, je peux vous assurer qu'on estimait que les villes de refuge étaient vraiment nécessaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin de sécurité pour les hommes, les femmes de notre génération ? Abraham Maslow, qui est un psychologue qui est décédé dans les années 70, a déterminé, la question, les besoins d'un être humain, en disant, voilà, tous les besoins d'un être humain, et il les a édictés, et puis c'est une pyramide des besoins que l'on utilise encore aujourd'hui, qui est revenue même un petit peu au goût du jour dans l'approche psychologique des besoins de l'individu. Le premier besoin d'un individu, dit-il, c'est les besoins primaires, physiologiques, manger, boire, dormir, respirer. Si vous n'avez pas cela, c'est difficile de s'occuper d'autres besoins. Je pense aux SDF que j'accompagnais. C'est vrai, leur demander d'aller visiter le Louvre pour développer leur culture, quand ils n'avaient pas le boire, manger, dormir, c'était compliqué. Et le deuxième besoin d'un individu, disait-il, c'était la sécurité, besoin de sécurité. Après, il y avait le besoin d'appartenir à une famille, à un groupe, à une communauté. Après, il y avait le besoin de cultiver l'estime de soi. Et puis le dernier besoin, pour Maslow, était le besoin de la spiritualité, mais spiritualité au sens large, c'est-à-dire la culture du beau, tout ce qui échappe à nos 5 sens, mais qui est nécessaire. Moi, j'aimerais m'arrêter ce matin au besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est véritablement un besoin que reperçoit tout homme ou tout enfant. Un enfant qui naît dans une famille, comme le petit qui est là sous nos regards, ce qui le rassure et le fait grandir, c'est de reposer sur la sécurité que lui proposent ses parents. Mais de la même manière, notre besoin de sécurité en tant qu'homme, femme, adulte, c'est de trouver quelque part quelque chose où on puisse se dire « là, je suis en sécurité, je ne suis plus victime de mes peurs, de mes craintes, de mon passé, etc. » Alors, est-ce que Dieu peut être, à l'instar de ces villes de refuge, notre sécurité aujourd'hui ? Les villes de refuge, c'est d'abord Dieu qui dit « Je veux, quelle que soit ta culpabilité, te donner un profond sentiment de sécurité en moi. » Tous les psaumes que David a pu écrire sont des psaumes qui profondément attestent dans son témoignage que Dieu est pour lui un refuge et une haute retraite. Est-ce que Dieu, dans notre vie, Christ aujourd'hui, est notre lieu de sécurité ? Est-ce que l'Église, corps de Christ, est au milieu de ce monde un espace où le monde peut dire « là, il y a une réponse à mon besoin de sécurité ? » Si vous regardez l'implantation de ces villes, vous avez en diagonale la terre d'Israël avec toutes les tribus qui se sont trouvées installées sur cette terre. Et vous voyez que si vous y êtes attentif, vous avez d'un côté du Jourdain, du côté de l'ouest, trois villes de refuge, et de l'autre côté, vous avez trois villes. Cette caractéristique, lorsque Dieu implante les villes de sécurité, de refuge, il le fait de manière à ce qu'elles soient toujours accessibles et à proximité d'un coupable. Parce qu'il faut être coupable pour avoir besoin d'une ville de refuge. Les non-coupables n'en avaient pas besoin. Mais qui est coupable ? Ésaïe dira, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants. Il parle du Messie. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. En fait, Paul redira la même chose en disant aux Romains, nous savons tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et si je suis coupable et pécheur, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que j'ai besoin d'une ville de sécurité, une ville de refuge? Est-ce que j'ai besoin de trouver un espace où ma condamnation est ôtée? Eh bien, Dieu, dans l'Ancienne Alliance, avait prévu cela de manière très concrète, et c'est une illustration de ce que Christ est pour nous. Alors on me disait, le vengeur du sang, ce plus proche parent qui venait, qui essayait de faire payer sa dette au coupable, ce Goël, eh bien, pouvait porter atteinte à la vie de celui qui était coupable. De la même manière que sans Christ, le salaire du péché, c'est la mort. Et en fait, cette ville de refuge, c'était le seul endroit où on ne pouvait pas être atteint. Mais il y avait une particularité, c'est que cette ville de refuge, elle était désignée par Dieu. On n'allait pas dans n'importe quelle ville. On ne pouvait pas dire, « Oh tiens, je vais aller à Jéricho, oh je vais aller à Rama, ou je vais aller à Gizer. » Non, non, si je vais là, je perds. Le vengeur de sang me fait payer sa dette. Au début du mois, il y a la Coupe de France qui s'est déroulée pour les petites équipes, et il y a une équipe du côté de Tarbes qui est allé dans son match, dans une petite ville à 80 km de là, pour faire son match de la Coupe de France. Et ils ont été éliminés sur tapis vert. Vous savez pourquoi ? Ils devaient jouer leur match à Vabre, du côté de Tarbes. Il y avait deux villes qui portaient le même nom. Ils sont allés dans la mauvaise. Arrivé sur place, il n'y avait personne, pas d'équipe, pas d'adversaire. Le temps qu'ils refassent, qu'ils comprennent ce qui se passait et qu'ils aillent dans la bonne ville, c'était trop tard. Ah, ça nous fait sourire. C'est Dieu qui désigne les villes de refuge comme il nous dit là aussi, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un juste germe. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Il montre où est la possibilité d'être sauvé, d'échapper à la mort. Tu iras dans cette ville, ou dans celle-là, ou dans celle-là. Tu te tourneras vers Christ, et en lui tu auras la rédemption, le salut pour ta vie, la paix pour l'éternité. Là est l'espace de salut. Alors, cette ville de refuge, elle est clairement désignée. Notre Rédempteur est celui qui rachète le pécheur à grand prix, comme il est dit dans l'Épître aux Galates. Est-ce que ce lieu est choisi ? La personne de Christ est choisie. Il n'y a pas en lui d'autre salut. Vous savez, il y en a d'autres qui ont essayé de trouver d'autres villes. Aujourd'hui encore, on cherche le salut ailleurs que dans la personne de Christ. Chercher son salut dans les propositions de l'adversaire, dans la religiosité, par exemple. Ah, si je fais comme ça, si je fais comme ça. Pendant des siècles, l'Église chrétienne a proposé un processus pour être sauvé. Si tu fais tant de prières, si tu fais ceci, si tu fais cela. Aujourd'hui, les hommes cherchent à être sauvés par le plaisir, par d'autres choses que Christ. Il n'y en a qu'un. La ville de refuge était toujours à proximité, vous voyez. La particularité de l'implantation des villes de refuge, c'est que Dieu a dit « Je ne veux pas qu'un coupable soit trop éloigné pour aller atteindre une ville de refuge. » Ça, c'est un principe. Chacun devait pouvoir trouver une ville de salut qui soit accessible, à proximité, facile d'accès. Pas un espace caché, replié. Quelque chose qui soit visible, montré. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Certains disent, mais où est mon salut? Où est-ce que je peux trouver la paix? Où est-ce que je peux trouver la libération de tout ce que je porte en moi, de colère, de mort, de séparation d'avec Dieu? Le Fils de l'homme est proche. La ville où tu peux te protéger est à côté. Quand un homme, alors c'était des hommes qui étaient coupables de mort involontairement, c'est-à-dire qu'ils allaient dans la ville de refuge et puis ils attendaient un jugement. Ceux qui étaient coupables volontairement, ben là ils étaient jugés. Mais ces coupables-là, involontaires, ils pouvaient se réfugier. Oh, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent qu'ils sont coupables de rien. Sauf que si on se place devant Dieu et devant sa sainteté, nous sommes tous coupables d'être séparés de lui par le péché qui règne en nous. Alors quand on est coupable et qu'un homme se trouvait dans cette situation, vous savez, il ne disait pas « Oh bah, la semaine prochaine j'irai. J'irai me réfugier à Ramoth ou à Betser. » Non, non, il disait bah, « C'est trop risqué, c'est maintenant, il faut que j'y aille maintenant. » Des fois que le vengeur de sang me rattrape et que mon péché me condamne. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui nous laisse du temps. Où on se dise, oui, demain peut-être. Non. Christ est là afin que nous puissions saisir maintenant, tout de suite et maintenant, le salut qui se trouve en lui. Et frères et sœurs, j'ai envie de dire que parfois même en tant que chrétien, ce salut qui se trouve en Christ, combien de fois nous en repoussons l'accomplissement dans notre vie en se disant « Oh oui, mais ça, ces choses-là, j'ai le temps. Demain, peut-être. » Alors que c'est aujourd'hui jour de salut. Il ne faut pas attendre pour se réfugier en Christ. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'autre endroit en Christ pour être sauvé. J'ai eu la joie samedi et dimanche dernier, de rencontrer Marie Selvaratnam, qui est la femme de Benjamin Selvaratnam, le premier pasteur qui a ouvert une salle de l'église apostolique à Paris. Et je suis allé vers elle parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais travaillé l'épître aux Éphésiens avec l'introduction, et notamment il y a 40 ans avec Michel. Je ne sais pas si Francine était là, mais il me semble qu'elle était là. Benjamin Selvaratnam, qui a ouvert plus de 110 églises en Inde et au Sri Lanka, nous a enseigné l'introduction, l'épître aux Éphésiens. Vous savez, cette épître où il y a comme un leitmotiv prononcé par Paul qui dit « En lui, nous avons. En lui, nous avons. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons toutes les promesses de Dieu. En lui, nous avons la réconciliation. En lui, en lui, en lui. » Nulle part ailleurs. Dans cette ville-là, je suis sauvé. Dans cette ville-là, j'ai la vie. Et aucune condamnation ne peut m'atteindre. Ah, vous me direz, oui, mais alors il faut rester en lui. C'est passer toute sa vie dans cette même ville. À Kevin. Je comprendrais, à Paris, hein, c'est un petit peu plus joyeux. Il y a plus de mouvement, plus de... En lui, en Christ, il faut que je reste là. Alors, lorsque le vengeur de sang arrivait, si le coupable était dans la ville, il pouvait rester à la porte. Il ne pouvait rien faire. Mais l'autre à l'intérieur de la ville ne pouvait pas sortir non plus. Il était condamné, sauf il y a une raison qui lui permettait de sortir et de quitter définitivement en toute sécurité la ville de refuge. Vous savez quelle était cette raison ? Quand le souverain sacrificateur mourait. Quand le souverain sacrificateur mourait, la faute était enlevée et l'homme ou la femme pouvait retourner à sa vie et vivre sa vie. Les villes de refuge, c'est une préfiguration de Christ parce qu'il est à la fois celui qui demande la condamnation du péché et il est à la fois le souverain sacrificateur qui dit « Eh bien, moi, par ma mort, je paye le prix de tes fautes. » J'aurais pas aimé être souverain sacrificateur à cette époque-là. Il devait y avoir dans 6 villes du territoire d'Israël des hommes en prière qui disaient « Vivement qu'il meure, vivement qu'il meure !» Le couple qui a donné... Le couple pastoral qui a donné de l'argent pour il y a 40 ans pour ouvrir la salle de Paris était pasteur à Saint-Étienne. Et puis à Saint-Étienne, ils étaient déjà là avec cette idée. Ils n'avaient pas encore assez d'argent pour ça. Mais à Saint-Étienne, ils disaient, mais il nous faudrait une salle à Saint-Étienne. On n'a pas l'argent, tout. Et puis il y a une sœur, et je tiens cette histoire comme vraiment véridique, parce que c'est quelqu'un qui l'a connu qui me l'a raconté. Et il y avait une sœur qui était âgée et qui dit à ce couple pastoral qui s'appelait François Jéquier et son épouse, et ils disent, cette femme dit à François Jéquier, écoutez, dès que je meurs, sur mon testament, je vous fais un don pour l'achat d'une salle à Saint-Étienne. Alors François Jéquier, que j'ai connu, Michel aussi l'a connu, était heureux de cela. Mais néanmoins, ils continuaient à prier pour que le Seigneur leur donne les moyens d'acheter une salle, quoi. L'hiver arrive, et cette dame âgée, il y avait de la neige, de la glace, elle tombe et se casse le col du fémur. François va lui rendre visite à l'hôpital pour prendre des nouvelles, pour l'entourer, l'accompagner. Et puis, il dit à cette femme, vous savez... On est bien embêté dans l'Église vous concernant. Alors la dame dit pourquoi ? Oh, bah c'est simple, c'est en fait, vous nous avez dit, dès que je serai décédé, sur mon testament, il y aura de l'argent pour acheter une salle. Et nous, on crie tous les jours au Seigneur, donne-nous les moyens, Seigneur, d'avoir de l'argent et des moyens pour acheter une salle. Et vous vous cassez le col du fémur. On ne sait plus comment on doit prier. Et la dame a dit, oui, c'est pas faux. Je vais vous faire un don tout de suite. Il y avait des meurtriers qui étaient dans les villes de refuge qui disaient, mais vivement que le souverain sacrificateur meure pour qu'on soit libéré. Et vous savez quoi ? En Christ, nous avons eu non seulement l'exigence de la justice de Dieu sur le péché, mais le même sauveur, le même rédempteur, le même Goël est venu pour dire... Tu mérites la mort, eh bien, je l'assumerai à ta place. Et dans l'Ancien Testament, au livre de la Genèse, il y a un personnage qui porte dans son nom et qui est une représentation de Christ, qui porte ces deux exigences, c'est Melchisédek. Un roi qui apparaît comme ça, de manière étonnante dans la vie d'Abraham, et qui est à la fois le roi de justice, il accomplit la justice de Dieu, l'exigence de la sainteté devant le péché, mais il est aussi... Roi de Salem, roi de paix, c'est-à-dire qu'il donne la paix à Abraham. Christ est notre roi de justice et notre roi de paix. Il s'agit, c'est pour les meurtriers, de ne pas quitter la ville, de ne pas s'éloigner de celui qui représentait, ou de cet espace qui représentait leur salut. S'éloigner de Christ aujourd'hui, de son amour pour nous, abandonner la marche avec lui, est aussi synonyme de mort spirituelle. Rester en lui. Six villes de refuge, vous les avez là sous les yeux. Ces six villes de refuge, elles ont aussi des noms et des caractéristiques qui peuvent nous parler aujourd'hui sur ce qu'est Christ. Bethsaire, c'est une ville qui se trouve ici, près de la mer Morte. Et Bethsaire, son nom, c'est une... Ça signifie forteresse éloignée. C'est une ville qui se trouve à l'orient de Jéricho, vous voyez, et qui, en plus, se trouve dans une région assez désertique, sur un plateau véritablement désert. Ça veut dire que cette ville de refuge, même au milieu du désert, elle représente un lieu de salut. Vous pouvez vous trouver dans un temps un peu désertique dans votre vie, sentiment que tout est sec. Christ peut être pour toi et pour moi cette ville de refuge au milieu du désert qui te dit « Viens te réfugier en moi et moi je serai une oasis pour toi ». Quand on a, lors d'un voyage au Maroc, été à essayer de rejoindre Ouarzazate, il a fallu remonter tout le Moyen Atlas et puis on est arrivé sur un plateau désertique. Alors ce n'était pas du sable, c'était du caillou sec pendant des kilomètres avec de la poussière. Et on roulait vers Ouarzazate. Et tout à coup, au milieu de ce désert, de cette tristesse, de cette mort, on a vu une oasis. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. C'est que dans le désert, trouver une oasis, c'est fabuleux. Il y avait une rivière, il y avait une ville en terre, un peu qui était bâtie sur ses flancs. On est rentré dans la ville, on a parcouru un peu la ville avant de repartir. Il y avait des palmiers, il y avait un espace rafraîchissant. Christ, dans ton désert, peut être cette ville de refuge. Il y a Kadesh. Kadesh, c'est aussi une ville qui a pour caractéristique de porter le nom de sainteté. Tout au nord, là-haut, vous voyez, dans le rose, à côté de Hatzor, au-dessus du lac de Tibériade. Kadesh, ça veut dire saint. Cette ville de refuge parle de la sainteté de Dieu. Dans Hébreu, il est dit, un tel souverain sacrificateur, en parlant de Christ, nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Il est sainteté. La sainteté s'est offerte à nous. Il s'est offert comme un lieu de refuge. Et moi qui étais pécheur, il m'a accueilli en son sein. Et il m'a dit, tes fautes sont enlevées. Oh, mais je suis imparfait, je suis nul, je suis encore avec une robe sale. On appelait le texte de Zorobabel que Michel aime tellement. Dans une vision, il voit que sa robe est enlevée et que la sainteté de Dieu lui est redonnée. Le fils prodigue, enlevez-lui cette robe sale et mettez-lui un habit nouveau. C'est le miracle de la grâce, cette ville de refuge qu'est Christ, qui dit, voilà, toutes tes fautes sont enlevées. Tu es saint à mon regard. Ce qui nous sauve, ce n'est pas que nous sommes saints dans la réalité, c'est que Dieu nous voit saints au travers de Jésus-Christ. Amen. Il y a tellement d'hommes et de femmes et de chrétiens qui continuent à se voir tellement sales et qui ne profitent pas de cette grâce qui leur est faite en Jésus. Je te reçois tel que tu es. L'autre ville, c'est Sichem. Sichem, c'est là qu'Abraham y a construit son premier hôtel après être entré dans la terre promise. Sichem, ça veut dire épaule. Vous me direz comment on va trouver un intérêt à Sichem. C'est cette ville qui est au milieu, là, ici. Eh bien, Sichem, ça reprend une pensée que l'on retrouve dans l'Ancien Testament où il est dit à de nombreuses reprises que Dieu nous porte sur ses épaules. Il dira même, il portera les noms en souvenir devant l'Éternel sur ses deux épaules, dans Deutéronome 1, verset 31. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait le pectoral du sacrificateur avec une pierre par tribu, le nom de la tribu, et il est dit, Dieu porte Israël sur ses épaules. Vous savez quoi ? On voit souvent le bon berger qui porte la brebis sur ses épaules. Jeanne, notre sœur Jeanne, connaît bien Hervé, qui aimait à peindre, nous a donné un tableau où l'on voit un berger penché pour secourir une brebis. Et elle avait fait des tableaux aussi avec un berger qui porte la brebis sur son dos. Christ ne fait que accomplir cette parole de Deutéronome. Il nous porte sur ses épaules, sur son cœur. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de borne à la grâce divine. Il nous porte sur ses épaules. Hébron, ça se traduit par communion. Être en communion, retrouver du lien. Cette ville de refuge, c'est aussi Christ qui dit « Par mon sacrifice, tu retrouves la communion avec ton Père, avec moi. » Quel que soit ton chemin, on a entendu une parole ce matin, quel que soit ton chemin, tu retrouves une communion avec moi. Est-ce que Dieu est pour moi cette ville de refuge? Est-ce que Christ est pour moi cette ville de refuge? Il y a la ville de Betser, forteresse dont on a parlé aussi. Betser, ça signifie lieu fort, forteresse, roc. Hein. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est le roc où je trouve un refuge, mon bouclier, mon puissant sauveur. Psaume 18, verset 3. Est-ce que Christ est cela pour toi aujourd'hui? S'il ne l'est pas, il veut le devenir. Il veut dans ta vie, dans ma vie, devenir cette forteresse, ce roc, ce lieu où je me réfugie, où je dis « je ne crains rien ». C'est Billy Graham qui, dans un de ses livres, utilisait cette image. Il voyait, en se promenant au bord de la mer pendant la tempête, un oiseau marin, une mouette, qui était réfugiée au creux d'un rocher. La mer tapait, le vent soufflait, il disait « ça, c'est ce que Dieu est pour moi. Je suis au creux du rocher, je ne crains rien. » Est-ce que ton cœur est peut-être ce matin dans la peine, dans le doute, dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude? Dieu veut être pour toi cette ville de refuge, ce rocher des siècles. Ramoth, ça signifie élévation. Là aussi, une ville de refuge, celle-ci, en Galade. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont de l'autre côté du Jourdain. On pourrait se dire, mais même en terre étrangère, Dieu est là. Oui, même en terre étrangère. Même si je suis loin des promesses de Dieu, il me donne des espaces. Il est là, présent, à proximité. Ramoth, c'est élévation. Être élevé. Oh, il y en a un qui a été élevé. À quelques mètres au-dessus du sol, sur le mont de Golgotha. Et c'est parce qu'il a accepté cette élévation qu'il est élevé aujourd'hui à la droite du Père, assis sur le trône. Mon Christ n'est pas un Christ, je dirais, qui est seulement monté sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Tu me donnerais la diapo suivante. Est-ce que vous reconnaissez ça? Personne ne reconnaît. Allez, un Nouveau Testament pour celui qui reconnaît. Ah, je suis déçu, je suis surpris. Pour aller à 2? Non. C'est de Kevin à Ponscor. C'est le calvaire qui est... Alors, il a une particularité, ce calvaire, c'est qu'il a été construit il y a, au début du... en 1875. Et je passais un nombre incalculable devant et je me disais, mais pourquoi ils ont mis un calvaire? Il y en a plein à tous les carrefours. Vous sortez de Kevin en direction du golfe et puis vous avez sur une pointe, juste dans un virage, ce calvaire qui est là. Et puis un jour, il y a quelques mois, j'ai eu la curiosité de m'y arrêter et de regarder ce qu'il y avait écrit. C'est complètement effacé. On s'est dit, c'est dommage. Et puis, la mairie a retranscrit l'écriture effacée qui se trouve au pied du calvaire. Et dessus, on peut lire ce texte-là. Donc, en réparation du blasphème et de la profanation du dimanche. Donc, c'est un calvaire qui était élevé parce qu'à l'entrée de Kevin, dans l'endroit où il est placé, il y avait une taverne qui s'appelait la taverne de Trousse-Jupe. À la fin du 19e siècle, en fait, c'est une taverne qui proposait pour ceux qui le voulaient, pour les jeunes gens du coin de Kevin, un lieu de danse, et notamment des danses qui arrivaient d'Amérique du Sud, le tango, Paso Doble, etc. Et les chrétiennes et chrétiens de Kevin étaient tellement, je dirais, fâchés de voir les jeunes gens aller à la taverne de Trousse-Jupe plutôt que de venir à l'église qu'ils ont édifié ce calvaire. J'ai trouvé que c'était assez étrange de mettre un calvaire pour dire, ben voilà, Seigneur, nous te demandons pardon à cause du blasphème, de la profanation du dimanche. Mais la question qui aurait dû se poser à l'Église à ce moment-là, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que les jeunes gens de Kevin préfèrent aller à la taverne, comme on dit en breton, de trousse la jupe, hein, c'était, je l'avais en breton d'ailleurs. Pourquoi ? Plutôt que de venir à l'Église. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas venus se réfugier au sein de cette ville de refuge que Jésus-Christ, présent dans son Église ? La question se pose. Qu'est-ce que nous donnons à voir et à croire dans le corps de Christ ? Est-ce que nous partageons avec ceux qui nous entourent le fait que l'Église, c'est aussi une Église qui élève Jésus-Christ ? Et j'ai envie de dire de la même manière, pourquoi est-ce que les jeunes gens allaient plutôt à la taverne de Trousse-Jupe à la sortie de Kevin plutôt qu'à l'église ? Ben parce que dans la dernière, on peut revenir sur la diapo précédente, la dernière ville qui était ville de refuge, c'était Golan. Et vous savez quoi, Golan, ça veut dire en hébreu joie. Ouais. La ville de refuge, je suppose que tous ceux qui s'y réfugiaient et qui avaient la vie sauve devaient se réjouir. Ils disaient, waouh, là je suis en sécurité. Oh, ça me fait un bien fou de ne plus avoir peur de mourir, de ne plus avoir d'inquiétude sur mon devenir. Est-ce que l'Église en Christ aujourd'hui est une Église qui est dans la joie ? Parce que si c'est vrai, si dans ma vie il y a la joie de Christ, alors vous savez quoi, mon témoignage fera que ceux qui sont autour de moi auront peut-être plus envie de venir à l'Église que d'aller à la taverne de Trousse-Jupe. Ceux qui m'entourent se diront, oui, j'ai essayé toutes les tavernes, j'ai essayé toutes les boîtes de nuit du coin, j'ai essayé tous les plaisirs que le monde me proposait, j'ai vraiment été dans l'alcool, dans la drogue, dans ceci, dans cela. Et si quelqu'un voit la joie du salut qui est dans le corps de Christ, alors, et ça arrive tellement souvent, des hommes et des femmes se diront, tiens, et si j'allais voir dans cet espace de refuge qu'est l'Église de Jésus-Christ, la personne de Christ, si je trouve cet espace-là, est-ce que ça changera ma vie ? Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu quant à ce lieu de refuge qu'est Jésus-Christ. Celui qui est à la fois le vengeur de sang, qui a l'exigence de la justice de Dieu, mais qui s'est fait aussi sacrifice pour payer nos fautes. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre aussi la direction, qui nous fait lever les têtes non seulement sur la croix, mais sur le trône occupé par Christ, et qui aujourd'hui est ou peut devenir notre espace de refuge. Amen.